a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Benjamin Morel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Alors le gouvernement de François Bayrou a échappé jeudi à sa première motion de censure déposée par la France Insoumise, en partie grâce aux députés PS qui ont, à une très large majorité, choisi de ne pas s'y associer. C'est le résultat de la négociation engagée par le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, avec le Premier ministre, qui consent à rouvrir une discussion sur la réforme des retraites. Le PS, faiseur de roi, cela fait dire aujourd'hui dans le journal La Tribune à François Hollande que le parti constitue désormais le pôle central de l'Assemblée. En plus de quoi, l'ancien président de la République déclare que dès lors que LFI a annoncé que son chef serait, quoi qu'il arrive, candidat à l'élection présidentielle, chaque composante à l'alliance de gauche a forcément retrouvé sa liberté. Alors que pense Jean-Luc Mélenchon de cela? Alors que le PS était son allié objectif dans le nouveau Front populaire, c'était sur RTL ce midi.
Nous sommes meurtris parce que nous nous sentons trahis. Qu'allons-nous faire maintenant? Puisque le Parti Socialiste, à l'évidence, n'est plus un partenaire. C'est un allié et encore de circonstances. Puisque dans une motion de censure, c'est quand même fondamental. Vous savez que la censure, c'est ce qui distingue la majorité de l'opposition. C'est d'ailleurs pourquoi la vérité politique n'a pas éclaté cette fois-ci, puisqu'ils continuent à dire qu'ils sont dans l'opposition. Les socialistes, personne n'y comprend rien. Ils votent pas les censures, mais ils sont toujours dans l'opposition. C'est quand va arriver le vote du budget. S'ils votent le budget et s'ils ne votent pas la censure du 49-3, pourra dire qu'ils ont rompu l'union.
Écoutons maintenant Sébastien Chenu, vice-président du RN, député du Nord. Écoutons attentivement après ce qui vient d'être dit.
François Hollande a raison sur une chose, les socialistes ont sauvé la tête de François Bayrou. Les socialistes, et si demain ils votent le budget, puisqu'on sait très bien que ce qui sépare la majorité de l'opposition, c'est le vote du budget. Donc si les socialistes votent le budget, ils rejoignent donc la Macronie. Alors ne pas voter le budget sans voter la censure, alors là c'est un exercice totalement irrationnel.
Les mêmes mots et les mêmes phrases viennent d'être prononcées par LFI et le RN. Est-ce, Benjamin Morel, est-ce parce que les extrêmes se rejoignent ou parce que ces deux partis partagent leur déception de ne pas être finalement les pivots de l'action politique du moment?
Je dirais qu'il y a une situation stratégique qui explique aujourd'hui ces prises de position. Les socialistes, parce que là vous citiez François Hollande a des intérêts particuliers et il a des intérêts également idéologiques au sein du parti. La situation des socialistes est loin d'être enviable en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Ces dernières semaines, on a un parti socialiste qui s'est éloigné du NFP. Et comme il s'est éloigné du NFP, et je ne parle pas de la France insoumise, je dis bien le Nouveau Front populaire de manière générale, parce que la motion de censure a peut-être été déposée par les insoumis, mais elle a été co-signée par les communistes et les verts. Et donc dans ce cadre-là, c'est pas tant la France insoumise qui est mise de côté que les socialistes qui en fait changent de rivage. Mais ils changent de rivage dans une situation stratégique qui est compliquée pour eux, parce que l'Union de la gauche a porté leur candidat aux législatives, parce que lors des municipales, ils vont avoir besoin d'une forme d'union de la gauche pour conserver leur ville. Rennes, Nantes, Lille, Montpellier, Marseille, etc. Tout ça risque de tomber sans union de la gauche, sachant que les reports de voix du centre vers les socialistes, on l'a vu aux dernières législatives, sont relativement médiocres. Que dit Jean-Luc Mélenchon ici? Il menace les socialistes en leur disant « Si jamais vous continuez à vous rapprocher de François Bayrou, la prochaine fois, aux prochaines élections, vous allez avoir des listes d'union de la gauche contre vous » et vous perdrez. Que dit le Rassemblement National? Il dit, en fait, étant donné que nous ne sommes plus tout à fait aujourd'hui en capacité de faire chanter le gouvernement sur les mesures qu'on pourrait mettre dans le budget, nous considérons que c'est le retour à une forme du MPS, et cette forme du MPS, nous en représentons la seule alternance, la seule alternative. Il n'est pas certain que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon soient les grands perdants de cette phase-là. Parce que fondamentalement, ils capitalisent sur des statuts d'opposants et demain, ils peuvent étouffer un peu plus cette alliance des centres.
Alors, est-ce que le Parti Socialiste fait désormais partie de ce fameux bloc central cher à Emmanuel Macron en ayant refusé de voter la censure?
Alors, il y a loin de la coupe aux lèvres pour l'instant. Enfin, évidemment, on est plutôt aujourd'hui chez les socialistes dans une perspective de tendre la main à François Bayrou. Toutefois, j'ai décrit le coup politique, de ce qu'impliquerait cette main tendue si elle allait plus loin. La vraie épreuve de force, ça va être le budget. Là, le Bureau national s'est prononcé sur une non-censure, mais qu'en sera-t-il au moment du budget? Est-ce que la pression politique ne sera pas assez importante à ce moment-là? Le discours de Sébastien Chenu renvoie en effet totalement à celui de Jean-Luc Mélenchon quand il dit « ceux qui ne voteront pas la censure », ce qui est paradoxal parce que le RN n'a pas voté la censure et a envisagé de ne pas la voter sur le dernier budget. « Ceux qui ne voteront pas la censure sur le budget formeront la majorité ». Ça, c'est très compliqué parce que ça veut dire que si des deux côtés, vous avez un discours qui est de dire Laurent Wauquiez d'un côté, Olivier Faure, c'est la même majorité, ils gouvernent ensemble. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rigueur budgétaire? C'est de la faute à Laurent Wauquiez. Pourquoi il y a Bruno Retailleau à l'intérieur? C'est la faute d'Olivier Faure. On va avoir une pression sur ces partis politiques. Dans quelle mesure les socialistes peuvent résister aujourd'hui à la pression avec les calculs électoraux que j'ai évoqués tout à l'heure et notamment les municipales? C'est pas tout à fait évident. Donc il n'est pas certain aujourd'hui qu'on ait une non-censure socialiste sur le budget d'ici la fin janvier, début février.
Mais à l'instant T, vous parlez de calcul, vous parlez de tactique. Est-ce qu'au bout du bout, alors nous parlons, est-ce que c'est le président de la République plus que le Premier ministre qui remporte une victoire politique avec un PS qui ne censure pas son gouvernement?
Je dirais qu'il y a probablement deux grands vainqueurs politiques dans cette séquence. C'est d'abord François Bayrou. François Bayrou qui aujourd'hui est dans une situation où il a pu construire une relative stabilité pour son propre gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, qui a un but, c'est aujourd'hui d'être hégémonique à gauche. Et cette hégémonie à gauche, si vous enlevez le PS de l'équation, eh bien, il n'y a plus personne aujourd'hui pour réellement la lui contester. Les défaits, ou en tout cas ceux qui sont en position de fragilité, c'est d'abord les socialistes pour la raison d'impasse stratégique que j'évoquais tout à l'heure, et les LR. LR qui était dans une position dominante au sein du socle commun, qui là se retrouve en situation périphérique, à devoir justifier devant son électorat, qui est poreux aujourd'hui avec le Rassemblement national, le fait qu'il fasse des concessions aux socialistes. Cette situation-là, mais ces deux partis politiques dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue tactique.
Benjamin Morel dans Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Le Premier ministre a donc donné sa feuille de route cette semaine avec sa déclaration de politique générale. C'était mardi à l'Assemblée nationale. Nous avons parlé du fond. Intéressons-nous maintenant à la forme. Charlotte Urien-Tomaca du service politique de RFI. Son style à François Bayrou divise.
Oui, et le Premier ministre le sait, la tâche est ardue. Il l'a d'ailleurs dit lui-même ce mardi devant les députés, je le cite, « Par quelle sorte d'optimisme les 16% de Français qui pensent que le gouvernement ne sera pas censuré avant la fin de l'année peuvent-ils bien être animés? Quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers. Quand tout va mal, on est contraint au courage. » Il a donc tenté de rassurer, mais la boutade en dit long. Et pendant son grand oral devant les députés, il a eu du mal à couvrir les invectives venues la plupart du temps des rangs de la France insoumise. On avait rarement entendu autant de brouhaha. En tout cas, le Premier ministre en est ressorti écœuré et aurait confié à sa ministre de l'Agriculture Annie Genevard que l'hémicycle était invivable. Même si sur le fond les critiques sont moins acerbes, c'est la forme qui a marqué les esprits. D'ailleurs, ce mardi, il a multiplié les métaphores et il s'est aussi emmêlé dans ses fiches au début du discours, ce qui a bien fait réagir sur les réseaux sociaux.
Et ce style, il le cultive, Charlotte, hein, même s'il se sait très très critiqué.
Oui, François Bayrou, l'agrégé de lettres classiques, amoureux des belles lettres, s'est montré très avare ce mardi en envolée lyrique. Comme me le confie un député du parti du Premier ministre, toutes ces phrases, c'est parce qu'il a un côté bon sens près de chez vous, revendiqué avec des expressions un brin désuètes et un vocabulaire simple, c'est le style Bayrou. Je le cite, les poireaux, c'est une métaphore qui se voulait amusante, il n'a pas employé des mots trop complexes pour rester compréhensible dans une déclaration de politique générale, éclaire le même député. Dans les grands rendez-vous du Modem, il peut se faire beaucoup plus littéraire, plus complexe. Là, il a voulu rendre l'ensemble plus lisible. Et pour un député LR, les parlementaires se moquent, mais ça glisse sur lui. Au moins, il n'a enthousiasmé personne, mais fâché personne non plus. Et pour un ministre de premier plan, le style Bayrou est particulier. On s'ennuie, mais je trouve qu'il a du courage. Il reste que même avec son débit de parole un peu lent et souvent moqué, tout ça est la marque de fabrique du nouveau Premier ministre, qui en plus de 40 ans de vie politique, n'a jamais changé de style.
Alors les critiques sont nombreuses, mais Jean-Luc Mélenchon n'y ajoute pas la sienne. Pour une fois, le chef de la France insoumise retient ses coups et il est même laudateur.
Tous ceux qui prennent M. Bayrou pour une chiffre molle inconsistante se trompe. C'est un homme extrêmement résolu. Monsieur Bayrou est un homme habile. Monsieur Bayrou est candidat à la prochaine élection présidentielle et c'est bien son droit. Et il est en compétition avec monsieur Hollande. Et croire qu'un homme de droite cesse simplement d'être de droite parce qu'il en fume un gars de gauche, non, c'est que le gars de gauche vaut rien parce qu'ils ne savent pas négocier.
À l'inverse, le RN, qui n'a pas été incontournable comme il l'a été pour le gouvernement Barnier, fait ce commentaire. Sébastien Chenu en fin de matinée.
Nous ne votons jamais la censure après la déclaration de politique générale, parce que la déclaration de politique générale, ce sont des mots. On va entrer dans le débat budgétaire. On va voir si les socialistes ont réussi à faire bouger les lignes. On va voir si la réforme des retraites, que ce soit sur l'âge ou les annuités, a véritablement été une inflexion. Moi, je n'y crois pas du tout. Ce que je crois, c'est qu'il aura du mal, François Bayrou, à faire sans le premier groupe de l'Assemblée nationale, qui est le Rassemblement national.
Voilà donc pour des propos tenus sur LCI. Benjamin Morel, vous avez regardé le Premier ministre, et vous l'avez écouté bien sûr, s'exprimer devant les députés. Quelle est votre analyse, à la fois sur le fond, mais aussi sur le style, puisqu'on vient en parler?
Sur le style, je crois qu'il ne faut pas lui donner trop d'importance. En effet, on a un Premier ministre qui parle de manière un peu laborieuse, ce n'est pas un grand orateur. Le fait de vouloir donner des signes, je dirais, de proximité à travers des métaphores. Alors, on a cité les poireaux, on pourrait citer la poule aux œufs d'or également. Ça rappelle un peu Jean Castex, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de montrer qu'on peut parler également aux Français, quels qu'ils soient, et pas forcément, en effet, aux agrégés. En règle générale, les discours de politique générale, il y a peu de gens qui les regardent, on va être tout à fait franc, et ils marquent très rarement fondamentalement l'opinion. On cite toujours les mêmes, on cite Chaban et la Nouvelle Société, on cite Rocard, et trouvez-en moins un troisième. La plupart du temps, on les oublie. En revanche, ce qui est plus problématique, c'est au moins deux points. On a vu des fortes imprécisions. Il y a eu le discours le jour même, et puis ensuite, il y en a eu un autre le lendemain, de manière très ramassée au Sénat. Au Sénat, d'habitude, vous donnez des éléments sur les élus locaux, et puis vous êtes plus précis sur certains points. Là, au contraire, c'était un condensé extrêmement ramassé, qu'on n'a pas vraiment apprécié les sénateurs. On a confondu parfois les chiffres en points et les chiffres en pourcentage, les millions et les milliards, ce qui donne le sentiment d'une forme de fragilité dans la maîtrise des dossiers. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour les parlementaires, ça peut donner le sentiment d'une forme de fragilité. L'autre élément, eh bien, c'est que on a beaucoup dit, François Bayrou était habile avec ce discours de politique générale, il a enfumé les socialistes parce qu'il leur a promis une réforme des retraites sans rien promettre. Et les commentateurs se sentaient extrêmement intelligents d'avoir vu qu'on avait tenté d'enfumer les socialistes. Vous connaissez le prince de Machiavel? Le prince intelligent ne montre pas qu'il est intelligent. Et donc quand ça se voit, quand les ficelles sont trop grosses, c'est pas du tout malin. Et là, en l'occurrence, les socialistes l'ont vu, d'où le mélodrame par la suite. Donc, entre guillemets, manœuvrer, c'est bien, c'est nécessaire en politique, mais je crains malheureusement que les ficelles aient été un peu importantes. Et aujourd'hui, ça brise la confiance. Les socialistes ont brûlé leur vaisseau vis-à-vis du NFP, ils atterrissent sur les rivages de la majorité, mais aujourd'hui, la confiance est déjà rompue avant même que le pacte n'ait commencé. Et ça, c'est un manque d'habilité de François Bayrou lors de cette déclaration.
Alors, sur le fond, justement, et sur le calcul, il a annoncé un conclave de 3 mois pour se réinterroger sur la réforme du régime des retraites. Est-ce que c'est donc une manœuvre pour avoir la paix avec les socialistes durant ce temps de négociation et de ne pas être censuré d'ici au printemps?
C'est une manœuvre, en effet, et tout le monde en a un petit peu conscience. C'est-à-dire que le budget, il arrive quand? Le budget, il arrive fin janvier, début février. Donc, on est largement avant, ne serait-ce que la première étape de ce conclave, qui va être les résultats de la mission de la Cour des comptes, qui arrive le 19 février. Donc, une fois que le budget est voté, François Bayrou n'a plus vraiment besoin des socialistes, parce qu'une motion de censure, il faut avoir une occasion de la voter. Il faut que sur un sujet, la gauche et le RN soient d'un commun accord pour faire tomber le gouvernement. Ça n'arrive pas autant que ça. Donc, ce faisant, ça ne peut guère arriver à ce stade-là que sur un budget. Donc, une fois que le budget est passé, François Bayrou peut se passer de tout ça. Première étape, les chiffres, la mission de la Cour des comptes. Les partenaires sociaux s'écharpent depuis des années sur les chiffres. Pensez-vous vraiment que la Cour des comptes va les mettre d'accord? Peu probable. Ensuite, on a cette conférence sociale. Le patronat et les syndicats sont sur un jeu d'inégalité, étant donné que le patronat n'a pas forcément intérêt à ce que la législation évolue, les syndicats, si. Quand bien même il en sortirait quelque chose, qu'est-ce qui se passe ensuite? Votre texte va arriver à l'Assemblée. Ce texte, il va être fondamentalement modifié par l'Assemblée. On va avoir des amendements croisés, NFP, RN. Ça va être un texte qui ne ressemblera pas vraiment au texte d'original. Original, ça va être un texte Frankenstein. Pensez-vous que François Bayrou va soutenir ce texte Frankenstein et contre le Sénat et contre, d'un côté, les macronistes et de l'autre, les LR? peu probable. Est-ce qu'il va donner le dernier mot au NFP plus au RN contre sa majorité au Sénat? Très très peu probable. Donc la possibilité qu'in fine il y ait un texte qui soit effectivement adopté est aujourd'hui infinitésimale. Mais le budget aura été voté, et si le budget est voté, ben je dirais que pour François Bayrou, le contrat est rempli. Mais pour les socialistes qui devront retourner en circonscription et dire « on a fait passer le budget et on n'a rien eu », la situation politique va être très très compliquée, et on revient aux réflexions de tout à l'heure.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Demain, à l'investiture de Donald Trump, il y aura Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui possède entre autres X. Or, à travers le monde, des institutions, ministères, villes, médias, personnalités publiques quittent le réseau social américain qui dénonce l'absence de modération et le paramétrage des algorithmes qui favorisent la prolifération des contenus haineux. En France, c'est le cas de la Ligue des droits de l'homme qui a quitté X, de 18 députés écologistes, dont Sandrine Rousseau, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou du président de la région Bretagne. Même chose pour le vice-président de l'Assemblée, Roland Lescure. D'où le commentaire de Sébastien Chenu, député RN.
Elon Musk va être très impressionné parce que Mme Rousseau tweetera plus ses âneries sur X. Je pense que le fait que Roland Lescure soit plus sur X, ça va changer la face du monde. On a des députés qui sont sur X, beaucoup. Certains n'y sont pas, ça existe aussi. Chacun est libre. Mais d'ailleurs, la régulation des réseaux sociaux, ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai beau débat qui est devant nous. On arrive à le faire sur certains. Facebook est plutôt bien régulé.
Les Insoumis, eux, comptent rester sur le réseau social X pour mener la bataille idéologique contre le RN. Justement. Écoutez sur France 3, Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Le combat contre l'extrême droite doit se mener absolument partout. Et je pense qu'en tant que responsable politique, on doit poser la question de la régulation, y compris des big tech et des réseaux sociaux, de la neutralité du net, toutes ces questions qui aujourd'hui ne sont pas posées, plutôt que la décision individuelle. Pour l'instant, nous continuons de nous battre pied à pied. Mais l'anecdote qui consisterait à quitter cette plateforme, il faut parler de la neutralité de l'ensemble des plateformes sur lesquelles nous sommes présents.
Benjamin Morel, les tweets remplacent souvent les communiqués. X est devenu un véritable média politique en France. Notamment.
Oui, X est devenu un média politique et il faut voir que alors, la plupart des gens qui sont sur X, et ça on a quand même quelques études maintenant, ils ne parlent pas de politique. Hein. Ils regardent des bébés chats qui font de la balançoire et ils en sont fondamentalement contents. En revanche, parlent politiques, les militants politiques, souvent les plus polarisés, les journalistes politiques qui attendent que les politiques les informent de leur prise de position politique. Et donc tout ça crée une forme de microcosme politique. En d'autres termes, aujourd'hui, l'information est beaucoup plus rapide sur l'état de la politique politicienne, je dirais, sur X qu'ailleurs. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a considéré que X, comme d'ailleurs les autres réseaux sociaux, mais particulièrement X, c'était un espace public. Ce n'est pas un espace public. C'est un espace privé qui est régulé par une entreprise américaine sous droit californien. C'était le cas avant Elon Musk, c'est le cas avec Elon Musk. Si jamais l'espace privé est bien géré, eh bien l'espace public de substitution est fonctionnel. Le jour où il est géré, et c'est le droit d'une entreprise privée selon certains impératifs, eh bien il devient dysfonctionnel. La question maintenant, elle est double. Elle est, un, avons-nous raison de considérer comme étant un espace public quelque chose qui n'était pas ? La réponse est d'évidence, non. Et ensuite, y a-t-il un substitut ? Or, aujourd'hui, bah, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, il y a d'autres réseaux hein, qui fleurissent, etc. Blue Sky, pour ne pas les citer. Mais le risque, c'est qu'en fait, on ait plusieurs espaces publics parallèles dans lesquels des gens qui sont d'accord se retrouveront très heureux d'être d'accord. La droite sur X, la gauche sur Blue Sky. Mais au fond, bah, ça empêche, ça signifie qu'il n'y a plus vraiment de dialogue.
Encore une question. On voit des politiques qui quittent X. Pour autant, les politiques, d'ailleurs parfois les mêmes, ont nourri la bête avec leur punchline.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'était un outil. Si vous voulez être visible pour les journalistes notamment, eh bien, vous pouvez l'être quand vous n'avez pas, je dirais, une assise dans les médias, etc. Vous pouvez l'être sur X. Et donc pour l'être, bah, il faut buzzer, il faut créer, je dirais, une forme d'engouement autour de votre nom pour être invité, qu'on commande vos propos, que vous ayez des articles, qu'on fasse même comme de la gloire, des émissions non pas avec vous, mais sur vous. Et donc ça, X le permettait. Et donc les politiques ont joué et surjoué de l'usage de ce réseau pour buzzer et donc pour exister. Encore une fois, la plupart des gens qui sont sur X ne regardent pas de la politique. En revanche, ils regardent ensuite un débat public dont X est une forme d'intermédiaire. Donc là, il va falloir qu'en effet, eh bien, on se désintoxique de la chose, ce qui ne signifie pas forcément le quitter, mais ce qui signifie qu'on considère autrement l'espace public pour arriver en effet à l'assainir.
Merci pour ces analyses et commentaires. Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Vous pouvez retrouver Dimanche Politique sur l'appli RFI, également sur le site internet de Radio France Internationale. Dimanche Politique, réalisé ce soir par